France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ça a commencé par une ouverture en baisse à la bourse de New York et voilà que Wall Street se retourne. Dow Jones, Nasdaq, tout le monde revient dans le vert, mollement mais sûrement, avant de repartir dans le rouge. Et pourquoi? Parce que Donald Trump a subitement dit d'accord à une pause de 90 jours et puis finalement on apprend que pas du tout, pas de pause en vue. Tout ça après une matinée secouée par des marchés encore dans l'affolement en Europe et en Asie. Trois jours donc après le fameux jour de la libération de Donald Trump, nous sommes entrés dans les jours d'incertitude. Et la question, c'est la nôtre ce soir. Que faut-il craindre pour de notre côté? Est-ce que Trump peut nous envoyer dans une récession mondiale? Est-ce qu'on fait la boule en attendant que ça se calme? Est-ce que les choses peuvent se calmer? Nous ne sommes pas, contrairement aux Américains, pieds et poings liés au cours de la bourse. Pas de fonds de pension pour payer nos retraites, par exemple. Nos produits d'épargne à nous, ce sont plutôt des placements à long terme. Mais enfin, peut-il y avoir des effets d'entraînement? Est-ce que cette crise de yo-yo va rester cantonnée au marché financier? Doit-on craindre qu'elle atteigne l'économie réelle? On le sait, l'économie déteste avant tout l'incertitude. L'incertitude, elle est partout. Plusieurs pays déjà ont commencé à tenter de négocier leurs droits de douane. C'est d'ailleurs le cas de l'Europe également sur les biens industriels. Mais Trump a aussi menacé la Chine de monter encore plus ses droits à elle s'il y avait réplique chinoise. Bref, le marché est comme nous, il a besoin de comprendre. C'est comme ça qu'il respire mieux. Et c'est bien ce que nous allons essayer de faire ensemble. C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, la première question, je vous la lis, elle nous est arrivée par WhatsApp, c'est celle de Nala, et elle correspond très bien à ce que nous cherchons dans ce téléphone sonne. Elle dit ceci: pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer le phénomène boursier qui a suivi les déclarations de Trump? Que s'est-il passé concrètement dans la tête des investisseurs et des entreprises? Je ne sais pas si vous êtes dans la tête des investisseurs, eh bien on va le savoir tout de suite. Bonsoir François Chollet.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Montségur Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l'autorité des marchés financiers. Eli Cohen est là également. Bonsoir Monsieur Cohen.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Et puis Alexandra Ben Saïd est également là. Je vous salue Alexandra.
Je vous salue tous.
Le service Éco de France Inter, c'est vous qui dirigez. On n'arrête pas les calls samedi à 9h. C'est aussi vous. Ben, je vais commencer avec vous François Chollet. Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à Nala pourquoi dans le contexte économique qui est celui-là, paf, le premier effet, c'est la bourse, et très violemment, visiblement.
Les marchés, comme nous-mêmes, avions un peu mal interprété ce qui allait se produire avec l'élection de Donald Trump. On avait été habitués à vivre avec la première version du président américain, et donc, à l'époque, c'était sur Twitter qu'il agissait et qu'il donnait les informations favorables ou défavorables au gré de ses humeurs. Et là, nous avions peut-être mal identifié sa capacité à aller répondre favorablement à ses promesses de campagne. Et les droits de douane aux États-Unis, on parle de taux à 2,5%. Et lorsqu'il a annoncé 10, ma foi, on s'est dit c'est à peu près supportable. Et puis, ce ne sont que des paroles de campagne. Et peut-être que ce n'est après tout que la manière de négocier peut-être d'autres enjeux géopolitiques ou stratégiques. Et il s'avère que ce n'est pas le cas.
Donc on a pêché par naïveté, en fait.
On a pêché peut-être par excès de confiance, en tout cas. Et les marchés ont été repris à rebrousse-poil totalement de cette conviction. Et ça a été d'une violence assez phénoménale. Hein. Il faut remonter, je pense, à 1987 pour voir trois séances aussi dures sur les marchés financiers, avec une particularité, c'est que là, ça touche toutes les places.
Alors, 87, vous avez cité cette date fatale, si je puis dire, François Chollet. Eli Cohen, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, le mot crack, ça c'était 87, on a le droit de le prononcer ou non? Le mot crise financière, c'était plutôt 2008, est-ce qu'on le prononce ou pas? Ou est-ce qu'on se dit que l'un comme l'autre, aujourd'hui, au train où vont les choses, sont pour le coup là, à mettre dans un coin de nos têtes et dans des éventuelles prévisions à venir?
Bah, quand vous avez trois jours consécutifs de baisse et que tous les instituts économiques prévoient que si les mesures qui ont été décidées sont mises en place, on aura une récession, d'abord aux États-Unis, une récession européenne, et qu'on perdra probablement un point de croissance sur les trois points de croissance mondiale. Je veux dire, quand la croissance mondiale perd un tiers de sa capacité propulsive, bah, y a de quoi s'inquiéter. Et pour les investisseurs qui essayent de voir comment vont évoluer les bénéfices des entreprises et qui, sur la base de leurs anticipations, décident de leurs décisions d'investissement, etc. Et
ben, mais du coup, ça s'appelle une crise financière ou pas? Ça s'appelle
c'est
comment?
Le début d'une crise financière, oui. Donc, alors, il faut la confirmation, mais c'est le début d'une crise financière.
Comparable, la dernière crise financière, c'était celle de 2008, elle a fait très très mal.
Oui,
comparable
à celle de 2008. J'ai des références qui sont encore beaucoup plus anciennes. Si les taux qui ont été annoncées par Trump en matière de droits de douane sont appliquées, eh bien, on aura des taux qu'on n'a pas connus depuis un siècle.
Mmh, ouais.
Un siècle.
Alors si, effectivement, vous avez raison, Eli Cohen, de parler de si, en fait, parce qu'au fond, on n'en sait rien. Et on a bien compris, alors Trump dit que le monde entier l'a appelé pour négocier, le monde entier, j'en sais rien, mais il y a un certain nombre de pays qui l'ont fait, ne serait-ce que dans la journée de ce matin, le Bangladesh pour ses vêtements, le Japon l'a fait aussi, Ursula von der Leyen au nom de l'Europe, François Chollet, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'au fond, les droits de douane, ce n'est pas une fin en soi, en fait ? C'est juste un moyen de pression, c'est un levier, et que finalement, et ça se négocie comme on négocie autre chose, en fait.
C'est exactement la vision que je donnais tout à l'heure, lorsque nous disions que nous étions un peu naïfs.
Vérité,
c'est que
l'accord
de gouvernement qui a été signé par Trump aux États-Unis prévoit à peu près, sur une dizaine d'années, 4600 milliards d'économies. Une partie sera faite par la croissance économique, on va dire 2500-2600 milliards, si tout se passe comme on peut l'imaginer. Et une autre partie sera l'œuvre, on l'espère ou pas, en tout cas, mais des économies budgétaires liées aux baisses de dépenses d'Elon Musk, sous sa responsabilité pour l'instant, en tout cas. Et c'est ce qui était, en tout cas, l'accord signé. Et donc, pour financer, en dehors de cela, des baisses d'impôts, je crois qu'on n'a pas bien compris une chose, c'est qu'il avait besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses et qu'il comptait sincèrement et réellement sur ces taxes pour y parvenir. Mmh. Et donc, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase d'incertitude. Cette incertitude, elle se transcrit en matière technique sur les marchés financiers par un indice de volatilité, un indice de la peur. C'est-à-dire que les investisseurs vont chercher de l'assurance avec des produits alternatifs, des produits de couverture, par exemple.
Genre, par exemple, c'est quoi un produit de couverture ?
Ce sont des options, essentiellement. Et on mesure ça sur un indice qui s'appelle le VIX aux États-Unis.
L'indice de la peur.
C'est l'indice de la peur.
Vous êtes où sur l'indice
On est sur 40 à peu près au moment où je vous parle.
Attendez, c'est
pas
quoi
moi
l'échelle
qui le fixe, c'est la température, c'est la météo des marchés.
Ah, c'est de 0 à 100, on est à 40.
C'est très fort. Hein.
C'est, 40, c'est beaucoup
fort. Oui, c'est des pics qu'on a connus, par exemple, pour le Covid en 2020, ou dans des phases, vous avez cité le crack de 2008-2009, c'est à peu près des niveaux connus dans ces périodes-là. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez déjà des ventes forcées sur le marché. Mmh. C'est-à-dire que les gérants qui travaillent à gérer des patrimoines ou gérer des fonds.
Bah c'est votre cas, par exemple.
Contraintes de risque, c'est effectivement
non, mais,
mon cas.
Et du coup, la question que je me pose, c'est d'abord, dans notre naïveté, et peut-être aussi la vôtre, donc ça veut dire que vous n'avez pas prévenu non plus les gens pour lesquels vous travaillez, attention, ça va tanguer, donc j'imagine que vous l'avez pris aussi. Comment on fait pour les calmer, ces investisseurs, le portefeuille que vous gérez ? Est-ce que vous dites aux gens, fais la boule, parce qu'à un moment ou un autre, ça va se calmer ? Est-ce que c'est panique à bord, dans une société comme la vôtre, par exemple, sincèrement, François
Chollet ?
Alors,
on ne peut pas dire ça.
Alors, panique, non, vous n'allez pas me dire que c'est le cas.
Non, mais pour une raison très simple, c'est que notre métier à nous, qui nous adressons à des clients particuliers non avertis, et bien de nous assurer en permanence d'une adéquation entre le risque des marchés, le risque qui est pris par les investisseurs et le risque que l'on prend pour eux au travers de leur portefeuille, et leur capacité et à le comprendre, et à le mesurer, et à l'accepter dans le temps. Et donc, notre premier objectif, au-delà de faire de la performance, c'est de nous assurer de ne jamais sortir de ce cadre-là. Donc ça, c'est la première chose qui, je pense, caractérise notre métier et qui concerne la plupart des bons professionnels dans nos métiers. Le deuxième, c'est qu'on a encore cette capacité, en tout cas, la réglementation nous permet de faire ça, d'avoir des mandats qu'on appelle discrétionnaires, c'est-à-dire qui vont pouvoir évoluer en termes de profil de risque en fonction de ce qui nous est proposé par les marchés. Et donc, quand on a des phases de risque comme celle-là, on est en capacité, selon les clients, d'avoir des attitudes qui peuvent être un peu différentes par la fine connaissance de ses clients.
On essaiera de voir, effectivement, pour l'instant, qui perd de l'argent, en fait, et en quoi. Donc, il y a déjà des effets boule de neige, on verra. Mais je voudrais d'abord qu'on écoute Nathalie. Bonsoir, Nathalie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, écoutez, je vous pose une question parce qu'on n'a pas tout compris. On a bien compris que les taxes allaient frapper les marchandises. Et on se demandait si ça avait aussi frappé des services ou des biens immatériels comme du développement informatique.
Merci pour votre question, Nathalie. Est-ce qu'on peut expliquer à Nathalie Eli Cohen
c'est très simple. Les droits de douane qu'a décidé M. Trump, ce sont des droits de douane sur les échanges de biens physiques. Parce que c'est dans ce domaine-là que les États-Unis ont un déficit marquant par rapport à la Chine et par rapport à l'Europe. Et donc l'idée de Trump, c'est qu'en taxant les échanges de biens, il va faire rentrer beaucoup d'argent, et il va faire rentrer tellement d'argent qu'il va même pouvoir baisser les impôts directs que les Américains payent. Il estime qu'il peut mobiliser comme ça près de 1 000 milliards de dollars qu'il va récupérer en taxes sur les importations et donc que vont payer les exportateurs. Et avec cet argent, il va pouvoir redistribuer de l'argent aux contribuables américains. Mmh. Non mais c'est du grand n'importe quoi, si vous voulez, quand on regarde de près. Toutes les décisions qui sont prises sont contradictoires. Je vous donne juste un exemple. Un des pays les plus taxés, c'est Taïwan.
Ah ouais.
Or, c'est absurde de taxer Taïwan, parce qu'on importe, les États-Unis importent tous leurs composants électroniques de Taïwan et ils ne peuvent pas les remplacer du jour au lendemain. Première absurdité. Deuxième absurdité, cette décision est prise au moment où TSMC, qui est la grande boîte taïwanaise qui fait des composants électroniques, s'installe aux États-Unis et y investit 100 milliards de dollars. Vous imaginez quelqu'un qui vient venir investir chez vous, qui va donc importer des matériaux, de la main-d'œuvre, etc. La première décision que vous prenez, c'est de le taxer. C'est du grand n'importe quoi. Donc on essaye de donner de la cohérence aux décisions de Trump, mais il n'y en a pas de cohérence.
Pardon, allez-y, Alexandra.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Eli Cohen, parce que vous dites qu'il n'y a pas de cohérence. Lui, il a quand même une logique assez claire hein, quand on l'écoute. À court terme, ce qu'il veut faire, c'est faire rentrer de l'argent avec les droits de douane pour en effet baisser les impôts. Il rêve encore de l'Amérique avant l'État fédéral, avant l'impôt sur le revenu,
Pour le coup, 19e siècle, en effet, comme vous le disiez. Ouais.
Sa deuxième idée, c'est...
Je vous arrête. Ouais. Cette première idée est absurde. Premier effet de cette idée, c'est que les Allemands ont annoncé aujourd'hui qu'ils n'exportaient plus de véhicules aux États-Unis. Mmh. Audi a dit qu'ils n'envoyaient plus d'Audi aux États-Unis. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles Audi qui arrivent aux États-Unis,
Je ne dis pas qu'il va y parvenir. Je dis juste que lui, il a sa logique.
Ah oui,
et
mais
sa
attendez,
logique, c'est ça à court terme.
Nous, on est là pour voir les effets de cette décision.
À moyen terme, ce qu'il veut, c'est en effet réindustrialiser. Et vous êtes un spécialiste de l'industrie, vous allez nous dire. Il veut réindustrialiser le pays. Et d'ailleurs, vous vous souvenez quand il monte ses droits de douane multipliés par X pour chaque pays, il fait monter un blue collar, un ouvrier sur la tribune et cet ouvrier raconte qu'il a vu toutes les usines. Donc lui, il pense qu'il va arriver à faire revenir des usines qui, effrayées par les droits de douane, voudront s'implanter aux États-Unis. Et trois, il y a le schéma ultime qui serait la baisse du dollar. Et c'est ça, en fait. Quand les gens disent il n'a pas de plan, alors il a un plan.
Mais attendez,
que ce plan échoue ou pas.
Il pense, mais nous, économistes, on est là avec nos instruments pour essayer de voir si ce qu'il pense a la moindre chance de se réaliser, un peu, beaucoup, pas du tout, ou si même on risque d'obtenir l'effet inverse.
Alors du coup, est-ce qu'il y a un peu ou que du pas du tout
Non, que du pas du tout. Le déficit américain, c'est pas parce que les Allemands sont méchants ou que les Chinois sont méchants, c'est parce que les Américains consomment plus qu'ils ne produisent, parce que les Américains n'épargnent pas suffisamment.
Mais ça, je trouve ça, moi, assez fascinant et intéressant quand même, en fait, de se dire que ce qu'il est en train d'essayer de faire, et ce qu'on entend aussi de la part de ces chiefs économistes qui sont à côté de lui, c'est de, au fond, changer le paradigme américain, de les faire passer d'un pays de consommateur à un pays de producteur. Et je me demandais jusqu'à quel point ça pouvait aussi, alors même si la méthode n'est pas la bonne, si ça pouvait aussi avoir du sens, en fait. Imaginez qu'on arrête d'être un pays ultra-consommateur.
Ah, ça, c'est un point important que vous avancez, qui est, effectivement, est-ce qu'on peut changer la nature de l'économie américaine ? C'est-à-dire une économie qui était dopée à la consommation, importée, pour en faire un pays qui serait un pays avec des consommateurs sobres, avec des consommateurs épargnants, avec des consommateurs qui accepteraient d'être plus taxés.
Je vois François Chollet qui est très dubitatif
sur le sol américain. Oui, on peut.
Je comprends qu'on soit dubitatif, surtout qu'ils ont été élevés comme ça.
Il y a un sens qui me paraît incroyable, c'est que d'abord, ça voudrait dire échanger des cadres aujourd'hui qui travaillent dans les services à haute valeur ajoutée américains, dans des grandes entreprises qu'on cite régulièrement les GAFAM, contre des ouvriers de production. Et ensuite, avec quelle main d'œuvre comptez-vous faire cela, M. Trump ? Parce que le taux de chômage aux États-Unis, et on est proche du plein emploi, autour de 4%. Si vous voulez réindustrialiser, il va falloir embaucher de la main-d'œuvre, alors que vous êtes en train de fermer les frontières et que vous avez une politique de natalité qui est absolument catastrophique, au même titre d'ailleurs que la plupart des grands pays développés. Je ne vois pas comment c'est envisageable d'un point de vue strictement, et quel est le sens de cela même, alors que on a aux États-Unis la plus grande valeur ajoutée sur les services qui sont
Pour vous donner juste un exemple, Taïwan donc, qui accepte que TSMC vienne investir aux États-Unis dans une usine de composants électroniques parce que les Américains n'en produisent pas et que tout le monde est terrorisé à l'idée que Taïwan soit annexé demain par la Chine et qu'on soit privé de l'approvisionnement en composants électroniques. Pour faire cette usine de composants électroniques aux États-Unis, Taïwan en est à faire venir ses travailleurs de Taïwan pour former les Américains à la production de composants. C'est pour vous montrer à quel point, quand vous avez 50 ans de désindustrialisation, vous ne pouvez pas vous mettre à refaire de la production industrielle du jour au lendemain.
Peut-être que c'est ce que vous disiez aussi sur le 19e siècle, de cette époque où on emportait ou n'importait ou exportait d'ailleurs des produits entiers. Oui. Aujourd'hui, effectivement, c'est fini. Une pièce qui vient d'ici, une pièce qui vient de là, et c'est ça qui rend les choses plus compliquées. Vous avez parlé de dans la troisième raison, Alexandra, vous avez parlé de monnaie.
Alors oui, la faiblesse du dollar. Oui.
Exactement, et je voudrais qu'on aille sur cette idée avec Frédéric, qui est avec nous. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on parle beaucoup de taxes, on ne parle pas de monnaie, alors j'aimerais que nos invités nous parlent de l'avantage extraordinaire que donne aux États-Unis le dollar, tant au point de vue commercial qu'au point de vue politique. Et je me demande si, en fin de compte, comme cela a été dit, M. Trump n'est pas un peu gonflé, je m'excuse du terme, de dire qu'on l'arnaque alors qu'il est en train d'essayer de faire payer au monde entier les propres errements des États-Unis qui ont été soulignés, que ce soit au niveau de l'hyperconsommation, du manque de production. Voilà. Alors je me demande s'il faut se précipiter pour discuter avec lui ou bien lui mettre quelques taxes supplémentaires et dire qu'on discutera, qu'on reviendra à des meilleurs sentiments.
Alors deux choses Frédéric, merci beaucoup. Deux choses François Chollet. D'abord en effet le dollar. C'est quoi l'histoire avec le dollar ?
Le dollar c'est effectivement l'idée que en plus de tout cela, à partir du moment où vous avez moins d'importations, ben, les pays extérieurs vont évidemment encaisser moins de dollars. Et donc vous allez pouvoir faire baisser la devise quasiment avec une dévaluation compétitive phénoménale. C'est pour l'instant quelque chose qui s'est légèrement produit. On a une inflexion sur le dollar depuis le début de l'année qui vient d'ailleurs aggraver les pertes pour les investisseurs européens sur les marchés américains puisque si vous cumulez la baisse par exemple d'un indice comme le S&P 500 avec celle du dollar autour de 5%, ça
Mais lui voudrait qu'on réévalue en fait de notre côté pour...
Oui, et il voudrait qu'effectivement que l'euro continue de se renforcer comme cela d'une manière assez conséquente alors que je suis pas certain de ça mais à peu de choses près, on est pas loin de la parité de pouvoir d'achat aujourd'hui entre les devises. Bon, clairement, c'est encore une fois une théorisation économique un peu bancale sur laquelle il appuie toute cette politique et à laquelle j'ai du mal à adhérer moi aussi.
Alors après, il y a la suite de la question de Frédéric qui dit, donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui rend la monnaie de sa pièce ou est-ce que on attend, en gros, parce que l'une des théories, vous allez nous dire où vous êtes Eli Cohen, c'est de dire que de toute façon, là pour l'instant, il fait surtout mal aux Américains. Donc c'est à lui qui fait mal, en fait. Donc on peut aussi bien attendre qu'il en ait marre de faire mal à son propre peuple parce qu'ils vont finir par manifester encore plus qu'ils ne le font, etc. Et donc, c'est même pas la peine de répliquer nous derrière, en fait. Ou est-ce qu'au contraire... Alors, je vous vois faire, Ou est-ce qu'au contraire, il faut y aller
dans les relations, dans la balance des paiements, si vous voulez, vous avez trois composantes. Il y a les échanges de biens. Sur les échanges de biens, l'Europe est excédentaire par rapport aux États-Unis, et donc on peut effectivement considérer qu'il pourrait y avoir un certain rééquilibrage du côté américain en taxant les biens importés. Mais il y a un deuxième bloc qui est beaucoup plus important, c'est les services. Et sur les services, les États-Unis sont très largement excédentaires par rapport à l'Europe. Ils sont excédentaires de plus de 100 milliards de dollars. Et puis il y a une troisième composante, ce sont les mouvements de capitaux, c'est-à-dire les dividendes encaissés, la propriété intellectuelle. Et là aussi, les États-Unis sont excédentaires. Donc, s'ils nous tapent sur les biens, mais il est tout à fait normal qu'on réagisse sur les services et éventuellement...
Mais alors justement, poser la question, est-ce que c'est sur les biens qu'il faut répondre ou est-ce qu'au contraire, en effet, il faut répondre sur les services ? Est-ce qu'il faut répondre, par exemple, en restreignant l'accès des fonds européens à l'épargne... des fonds américains à l'épargne européenne ? Est-ce qu'il faut restreindre l'accès des banques américaines au marché financier européen ? Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça aurait plus de sens
moment où nous parlons,
la réciprocité des
au moment où nous parlons, les Européens sont en train de finaliser une série de mesures qui vont porter sur la taxation des services et donc qui vont limiter l'action des GAFAM en Europe, l'action des grandes banques américaines en Europe, et donc nous allons trouver le moyen de taxer. C'est pas facile parce que
parce qu'on n'a pas de substitut.
Une prestation intellectuelle, ça passe pas une frontière et vous n'avez pas quelqu'un qui peut vérifier, etc.
Mais si c'est haro sur les GAFAM, en effet, on en parlait avec Jean Tirole tout à l'heure dans la première heure, si c'est haro sur les GAFAM et que les GAFAM disent merci, au revoir, qu'est-ce qui se passe? On a rien pour se substituer, on a même rien pour leur dire de toute façon, on peut aller voir quelqu'un d'autre, donc vous ne serez pas gagnant, on n'a pas le quelqu'un d'autre.
Non, vous avez tout à fait raison, simplement, ce qu'on est en train de dire, c'est pas quelque chose de théorique. On s'est rendu compte en Europe déjà il y a pas mal de temps que les GAFAM ne payaient pas leur part d'impôt sur les activités européennes et on a trouvé un moyen de les taxer en prenant comme base leur chiffre d'affaires réalisé en Europe et que je sache, les GAFAM n'ont pas disparu du paysage européen.
On est quand même un marché énorme.
Exactement. Les États-Unis, c'est le premier marché mondial quand même. Donc,
L'Europe est un marché énorme. Exactement. Les GAFAM n'ont pas envie de se passer de nous. Vous me faites confiance.
On peut dire qu'ils ne peuvent pas se passer de nous. À l'image des investissements qu'ils font.
Ce que je veux dire, c'est que nous non plus. Donc du coup, on peut effectivement les taxer, mais la réponse peut aussi faire mal et on ne peut pas répondre.
Oui, mais je vous signale que ce sont les États-Unis qui ont commencé.
On est d'accord, j'ai bien compris.
Ils ont commencé par des mesures particulièrement violentes et nous essayons... C'est très mesuré. Vous savez, les Européens sont à Washington, ils sont en train d'essayer de négocier. On n'a pas pris des mesures brutales, comme la Chine l'a fait aujourd'hui.
Et pour l'instant,
on est très prudent.
Non, et pour l'instant, on les prend à l'échelle de l'Europe. On attend le moment, François Chollet, où un pays va lever le doigt pour négocier directement avec Trump. Non, c'est bien ça qu'ils cherchent aussi.
Oui, et c'est bien la difficulté dans laquelle nous sommes, nous, en tant que gérants et sur les marchés, c'est que le calendrier actuel de ces négociations n'est pas prêt de s'arrêter. On a encore quelques jours à attendre pour avoir des premières réponses européenne.
Déjà en Europe, c'est 15 avril, puis le mois de mai.
Et puis le mois de...
Puis 15 mai,
Voilà, 15 mai, ça nous paraît extrêmement loin vu d'ici, sachant qu'on a un océan d'échanges d'ici là sur les marchés et de questionnements.
On est en train...
Mais si vous voulez, tant qu'on est sur les problèmes de taxation, je dirais que ce n'est pas très grave, parce qu'on peut trouver des arrangements, etc. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'on prend des mesures réelles. Les Chinois, aujourd'hui, ils viennent de décider non seulement d'augmenter les taxes, en représailles par rapport à ce qu'ont fait les États-Unis, mais ils ont décidé d'arrêter d'exporter certaines terres rares. Or, les terres rares, c'est absolument vital pour toute une série d'activités électroniques, aéronautiques, militaires, etc. Et si on rentre dans ce type de mesures, tu me prives de terres rares, je vais te priver de soja, tu me prives de soja, je vais te priver de titanium, etc. Alors là, c'est une désorganisation encore plus profonde des mécanismes de l'économie mondiale.
C'est peut-être ça le but ultime, non? C'est la fin de la mondialisation telle qu'on la connaît,
Là, ça serait la récession mondiale et globale. On est déjà à une inquiétude sur la récession qui a un très très fort niveau.
On est en train de parler de l'état de l'économie mondiale. Au téléphone sonne ce soir avec François Chollet, qui est président de Montségur Finance, société de gestion de portefeuille, avec Elie Cohen, qui est économiste et directeur de recherche au CNRS, avec Alexandra Ben Saïd, qui dirige le service éco de France Inter, et avec vous, Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Philippe.
Bon, alors juste avant de commencer, que ce soit bien clair, je ne suis pas trumpiste, mais il y a quelque chose qui me gêne un peu depuis une semaine. Vous êtes autour de ce micro, vous êtes tous des pointures dans votre métier. Dans toutes les émissions d'actualité, il n'y a que des pointures. Et donc, dès qu'on parle de ce problème des droits de douane, on dit que c'est Trump qui fait ça. Le plus loin qu'on va, on parle de son lieutenant, et après un peu de Musk. Mais moi, ce que je me dis, et ça n'en parle jamais, Trump, c'est pas un économiste, donc il doit y avoir quand même derrière lui, et j'écoutais tout à l'heure là dans l'émission avant la vôtre, aux États-Unis, à 75% de prix Nobel, il doit y avoir des économistes qui quand même le conseillent, et on n'en parle jamais.
Et merci beaucoup, Philippe.
C'est l'économiste qui le conseille. Ouais. C'est pas des... Voilà, il doit y avoir quand même des pointures.
Merci beaucoup pour votre question, Philippe. Et il a raison, Philippe. Il y a derrière des économistes qui sont beaucoup plus doctrinaires qu'il l'est lui. Lui, au fond, c'est la face qui fait beaucoup de gestes aussi pour raconter ce qu'il fait et qui montre les tableaux. Mais c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, Eli Cohen, non ? Derrière.
Écoutez, moi, je regarde les économistes, je regarde les déclarations des économistes, les grands spécialistes du commerce
Miran,
international,
c'est Navarro, Miran, ce sont les deux.
Navarro, c'est pas un économiste qu'on apprend à l'école, hein.
Oui, c'est vrai.
Krugman, c'est un économiste qu'on apprend à l'école.
Prix Nobel.
Voilà, ouais. Prix Nobel d'économie, spécialiste du commerce international, théoricien des échanges.
Mais Miran, il était prof à Harvard. Miran, c'est un prof de Harvard.
Oui, non, mais attendez. Donc, alors, ce fameux Miron, qui est le conseiller économique de Trump, lui, il a bâti une théorie.
Bah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est parce que
je vais y venir. Ouais. Il a bâti une théorie qui est réfutée par tous les économistes de la place,
et qui
est basée sur un principe. Vous savez, parfois, il y a des gens qui aiment bien avoir une idée chatoyante, qui renverse complètement les choses. Quand vous êtes un économiste qui regarde les choses, il regarde par exemple les phénomènes de balance commerciale, donc vous avez une balance commerciale des biens qui est déficitaire, une balance commerciale des services qui est excédentaire, et au total, vous avez une balance commerciale qui est positive ou négative, et vous devez vous financer sur les marchés internationaux pour combler votre déficit. Et c'est là qu'intervient l'épargne chinoise, l'épargne européenne, pour financer les déficits américains. Eh bien, cet économiste que vous citez, lui, il renverse complètement la machine. Il dit non, non, ce qui se passe, c'est que les Chinois et les Européens veulent acheter de la dette américaine. Et donc, les Européens, pour provoquer cette situation, poussent les Américains à surconsommer et à importer pour fabriquer des déficits qu'après, eux, ils financent.
Oui, c'est particulier comme thèse.
C'est très particulier.
Si je peux me permettre, Fabienne, Scott Bessent, là, je m'adresse à François Chollet. Scott Bessent, c'est bien un gestionnaire de fonds d'investissement au départ. Il était chez Soros.
Il faut nous donner un sous-titre.
Vous avez raison, c'est le secrétaire d'État au Trésor. C'est le ministre de l'économie américaine.
Si on veut, ouais. Allez-y, François Chollet.
Non, on a effectivement des personnels qui s'expriment aujourd'hui, qui ne sont pas forcément tous de grande qualité. Et puis, on a la chance d'avoir quand même un patron de la réserve fédérale américaine qui, par rapport à tous ces événements, essaie de tempérer du mieux qu'il peut.
Je vais vous demander, le seul garde-fou, c'est lui, pour l'instant ? Parce qu'en effet, il est très entouré, Trump. Alors, effectivement, de théories, comme le dit Eli Cohen, qui laisse un peu sans voix.
Plus qu'un garde-fou, on parlait à l'époque du premier mandat de Trump, du put Trump sur les marchés, c'est-à-dire du fait que le côté pro-business de Trump serait, en cas de difficulté économique, de nature à rassurer les investisseurs et à faire monter les marchés. Aujourd'hui, on n'a clairement pas le sentiment que ce put existe et qu'il ne reste que celui de la Réserve fédérale qui a déjà commencé à modérer ses propos et à ajuster son discours pour tenir compte de cette période d'incertitude. C'est-à-dire qu'elle ne donne plus d'éléments tangibles pour les investisseurs à moyen terme en disant on faudra s'adapter aux conditions qui nous seront livrées par le politique américain.
Non, mais surtout, il y a des pressions très fortes qui sont exercées sur le patron de la Réserve fédérale pour qu'il fasse action sur les taux, baisser les taux pour soutenir l'activité. Et moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et la menace qui est que s'il n'obéit pas, après tout, on pourrait se débarrasser de la Banque centrale. Ça sert à quoi, la Banque centrale ? C'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un dire à quoi sert la Banque centrale.
On a à l'instant la Commission européenne qui propose d'imposer des droits de douane à hauteur de 25% sur les biens américains à partir du 16 mai. C'est donc visiblement un document officiel. Donc, vous voyez, on se disait d'abord...
C'est l'escalade.
Exactement. Voilà. C'est l'escalade. Il y a Étienne qui nous dit ceci. On nous fait miroiter les retraites par capitalisation en France, mais qu'en est-il lorsque les bourses dégringolent ? Les retraités anglais et américains seront-ils impactés ? On peut dire les retraités anglais et américains sont impactés. Non, en tout cas américains, François Chollet, pour l'instant.
Alors, vous avez raison. La retraite par capitalisation peut signifier que vous avez des actions dans vos portefeuilles. Mais pas que. Et donc, on peut parfaitement capitaliser de la retraite basée sur des portefeuilles obligataires, et donc en capitalisant non pas des dividendes et des plus-values, mais des intérêts. Et dans ce cadre-là, la plupart des gérants d'épargne retraite ont une gestion par horizon qui permet d'ajuster le niveau de risque en fonction du délai qui reste à courir vers la retraite. Et effectivement, on diminue petit à petit le risque au fur et à mesure de la vie professionnelle pour s'ajuster et assurer que cette retraite, en fin de carrière en tout cas, s'approche le plus possible des objectifs qui étaient initiaux.
Alors ça, c'est effectivement, ça concerne les retraités américains. On a la question de Florent qui dit, est-ce bien une crise de l'économie fictive, donc celle des joueurs en bourse, ou de l'économie réelle, celle qui crée de la vraie richesse, donc le travail des gens? À quel moment, et y compris chez nous, l'économie réelle risque d'être tapée par ce qui se passe à la bourse?
L'économie réelle, elle est tapée tout de suite. À partir du moment où vous êtes dans un climat d'incertitude totale sur l'évolution de la consommation, sur l'évolution de la dépense publique, sur le financement de la dépense publique, sur l'augmentation ou la baisse des impôts, à partir du moment où vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? La première chose, c'est que vous vous dites, bon, investir, bon, je vais peut-être attendre un peu que la situation s'éclaircisse un peu avant d'investir. Consommer, faire un grand achat, bah, je vais peut-être attendre un peu avant de consommer. Bah, si vous ralentissez la consommation, si vous ralentissez l'investissement, vous ralentissez la croissance et donc vous ralentissez le niveau de vie des gens. Et donc voilà comment une crise fabriquée artificiellement devient une crise économique réelle.
Il y a deux questions que je vais vous livrer. C'est pas la première fois qu'on a des questions comme ça dans ce genre d'émission. Il y a Tiffaine qui dit, est-ce que ces taxes peuvent aller en faveur d'une transition écologique? Moins d'importations, c'est moins de transport. On a Émilie qui nous dit, suis-je la seule à y voir une formidable opportunité de ralentir la surproduction et la surconsommation? Qu'est-ce que vous dites de ces remarques-là?
Ben, la surproduction et la surconsommation, allez dire ça à toutes les victimes des inégalités, allez dire ça aux armées de pauvres et de chômeurs qu'il y a aux quatre coins du monde. Il y a un des effets de cette crise actuelle sur laquelle on n'insiste pas assez, c'est qu'en décidant de taxes très importante sur tous les pays et également sur les pays émergents. Mmh. Et on ralentit le développement des pays émergents. Donc ça va avoir un coût sur les moins développés. Regardez cette insistance qui a été mise sur le Lesotho ou le Botswana.
C'est le Lesotho, oui.
C'est le Lesotho, vous imaginez ?
Je ne savais pas où c'était sur la carte.
Sur le Lesotho, sur le Cambodge, enfin sur beaucoup de pays, effectivement.
Et en effet, Donald Trump veut, dans ses objectifs, réparer la mondialisation, réparer au regard de ceux qui ont été lésés, donc ses ouvriers.
Enfin, réparer pour lui qui a été lésé.
Et en réalité, il va aggraver. Vous parliez tout à l'heure du Bangladesh, qui est en train vraiment de se mettre à plat ventre pour essayer de garder des commandes. Parce qu'en ce moment, tous les acheteurs américains sont en train de dire aux fabricants bangladais, non merci, finalement, j'en veux plus des t-shirts.
Elle est là, Émilie, qui nous posait la question de savoir si c'était pas une formidable opportunité. Comme je vous ai un peu séché la question, Émilie, vous avez la parole, on vous écoute.
Allô ? Oui,
ouais,
bonsoir.
On vous entend,
oui. Oui, très bien. Oui, en fait, ce que je me demandais, c'est est-ce que Trump, finalement, il n'était pas altermondialiste ?
À son corps défendant, est-ce que Trump est un altermondialiste, François Chollet?
Dans ses effets, je pense
non,
pas
certainement
que
pas. Les principales mesures qu'il prend ont pour effet de handicaper le développement des pays pauvres, des pays émergents, des pays asiatiques en phase de décollage économique, des pays africains, etc. Non, c'est une catastrophe.
Et je pense également que ses idées vis-à-vis du Canada, du Groenland, sont de nature à aller récupérer des matières premières et à forer plus.
Drill. N'y a-t-il pas un effet d'aubaine pour faire plonger la bourse, acheter au plus bas, ensuite la laisser remonter, nous dit Fab. Il y a plein de gens qui nous posent la question des propres intérêts financiers de Donald Trump, d'ailleurs.
Alors c'est vrai qu'il a, pour le coup, laissé des doutes.
Et donc de délits d'initié, effectivement.
Oui, on a vu déjà des crypto-monnaies émises, on a vu pas mal de choses un peu étonnantes de la part d'un élu de cette envergure-là, qui en tout cas dans d'autres pays aurait été, je pense, relativement condamné. Ça n'a pas été pour l'instant le cas. Est-ce que derrière cela on peut imaginer qu'il puisse agir aussi sur les marchés de manière consciente? Franchement, à ce stade, pourquoi pas? Quand on voit l'organisation que l'on peut avoir de fuites ou d'informations, de contre-informations, on a vu cette séance extraordinaire aujourd'hui, où on a vu des communiqués ou des rumeurs qui sont deux heures plus tard infirmées.
Pas seulement deux heures, notamment celle sur les fameux 90 jours de moratoire.
Exactement,
sur les droits de douane, ça a duré, je ne sais pas, 3 minutes, 4 minutes.
Je peux vous dire que dans les salles de marché, vous avez des
ah oui, vous avez eu un sou au cœur.
Des variations qui sont tellement puissantes que n'importe quelle personne qui ait pu être informée de ces éléments a pu faire une vraie fortune dans la séance. Donc, objectivement, c'est extrêmement difficile de le savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette volatilité, aujourd'hui, ne profite ni aux ménages, ni aux investisseurs, peut-être aux gens qui sont sur les autoroutes de la finance et qui encaissent les commissions et les mouvements, mais c'est tout. Rien n'est positif dans tout cela, et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être le message d'espoir que l'on peut avoir, c'est que les électeurs de Trump, et notamment ceux qui ont été les grands donateurs...
Rien n'est positif, le message d'espoir de François Jolie.
...ne vont pas supporter très longtemps de voir leur cours de bourse attaqué comme cela. Vous pensez aux GAFAM, aujourd'hui, et ce qu'ils perdent actuellement sur les marchés financiers, de même que, je dirais, le peuple américain, on voit bien que la colère commence à monter d'une manière significative.
Ils vont cesser de faire le doron, y compris ceux qui ont beaucoup d'argent vont cesser de faire le doron à un moment. Alexandra, rapidement.
Les chefs d'entreprise américains et les milliardaires commencent en effet à grogner là-dessus. Vous dites rien n'est positif, alors je vais essayer de faire la mouche du coche. Il y a le pétrole quand même, c'était un de ses objectifs.
C'est vrai.
Le pétrole, ça baisse.
D'un point de vue écologique, faire baisser le pétrole n'est pas forcément quelque chose qui est de nature à nous rassurer.
C'était dans...
Si on est dans le postulat que le CO2 est la principale cause du réchauffement climatique, qui est quand même, je pense, la seule chose qui a été validée par tous les savants du GIEC.
Oui, et peut-être qu'il va obliger la Réserve fédérale à faire baisser ses taux si l'inflation monte. Peut-être que cet objectif-là, il va le remplir. J'essaye.
C'est-à-dire que si on est dans le scénario du pire, qui est inflation qui grimpe, récession, effondrement de la consommation, oui, à ce moment-là, la Banque centrale interviendra, mais elle interviendra non pas à cause des injonctions de Trump, mais elle interviendra simplement parce qu'elle est faite pour intervenir dans ce genre de situation.
Pour une très mauvaise nouvelle.
Et fournir des liquidités à le marché si jamais on avait des difficultés de refinancement interbancaire.
Alors en parlant de liquidités, la Commission européenne retire le Bourbon de la liste des biens américains visés par les droits de douane. Qu'est-ce que ça veut dire? On a retiré le Bourbon, soyez sympa, retirer le champagne.
Bonne nouvelle pour les Français.
Non, mais
il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était absurde de taxer le Bourbon, alors qu'en fait, c'est les services qu'il faut taxer, parce que c'est là que l'excédent américain est le plus important.
On est d'accord, mais est-ce que c'est pas ça qui risque? Ce sera la dernière question, parce que l'heure tourne. Mais est-ce qu'on va pas arriver là-dessus? Donc, donc je te retire le Bourbon, tu vas me retirer le cognac, je t'enlève les puces de je ne sais où, et toi tu m'enlèves les torchons de je ne sais pas où. C'est à ça qu'on va arriver
quand même. Non, le plus important, c'est que la négociation soit menée par Bruxelles, et qu'elle soit menée de manière centralisée. Et c'est ça qui permettra d'éviter des mesures ponctuelles qui profitent à tel ou tel pays.
Et ce sera effectivement la catastrophe si on se met chacun à tirer de notre côté du Bourbon, du champagne ou d'autres choses. On en aura d'autres, des téléphones sonnent sur le sujet. C'est sûr et certain. Merci vraiment à tous les trois. Merci à tous pour vos nombreuses questions. La question des petits bateaux, c'est celle d'Adrien, il a 5 ans.
Je voudrais savoir comment on fait les gâteaux. Et comment on fait les momies? Les momies et les gâteaux.
On essaye de ne pas les faire en même temps. Allez, réponse dans 3 minutes.